pourra regarder on va regarder les ce film de la première montée. Il y en a presque. D'abord une petite introduction. L'être de phare, ce qui est la première chose qu'on nous relate concernant Amadou. Donc, ça fait pendant 48 ans, Abraham Avinu a réfléchi sur les problèmes d'Emouna. Pendant 20 ans, il était en prison, prison de Nimrod, et le reste du temps, il était à Haran, avec son père. Et la Torah ne nous dit rien de toute cette époque-là. Il a 75 ans, quand on commence à me parler de lui, parce que à ce moment-là, il devient prophète. La Torah nous raconte ce qui lui arrive quand il est prophète. Parce que ce qu'on nous dit sur les Avot, c'est pas leur bio. C'est devenu Torah. C'est une partie, c'est intégré à la Torah. Ouais, commence par la nevoie, commence par la prophétie. La Torah, c'est la prophétie de Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas? Toute la Torah, à partir du moment où Moshe Rabbeinu apparaît sur la scène, en quelque sorte, qu'il est actif, c'est de la prophétie de Moshe Rabbeinu. Et Hachem lui a enseigné, Moshe Rabbeinu lui a enseigné le Réchit et toute l'histoire en amont de lui-même, et on a intégré dans la Torah ce qui était une voie, ce qui était donc quelque chose qui concernait le plan d'Israël à venir, et pas du tout les événements dans la vie personnelle, de la vie des Avot ou des Shvatim. Alors Rachid, sur l'air de ça, Rachid dit, là, la natra ou tovatra, veod, chez odiatim acha, baola. Va pour toi, pour ton plaisir, pour le tovatra, pour ton bien, et puis aussi, je vais te faire connaître dans le monde. Ça veut dire que Hachem lui dit, il faut que tu quittes ce pays où tu ne peux pas t'exprimer. Parce que si tu t'exprimes, tu atterris en prison si ce n'est pas pire. Si tu vas en Canaan, dans le pays de Canaan, là-bas tu ne seras pas en mesure d'aller poursuite. Et même, on va entendre ce que tu dis, on va recevoir ce que tu dis. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que ça a un petit peu un parfum d'orgueil ou de cabote. On me dit, tu vas y aller, tu vas le dire dessus. En plus, Ravolvé rapporte que l'Altar de Kelm, qui était l'endroit où ont appris beaucoup de maîtres du mouvement Moussard, en particulier le maître de Ravolvé, Yerucham Lendowitz, à l'intérieur duquel il disait que la preuve, le signe, si vous voulez, que quelque chose est fait de Shem Shamaim, c'est quand quelqu'un fait quelque chose de bien et qu'il y est contraint, en fait, d'une certaine manière, le machin. Quelqu'un qui est un excellent orateur, il ne pourra rien faire passer par ses dons d'orateur si sa nature ne s'y prête pas. Les gens disent, אם הרב דומה למלאך השם צבקות, יבקשו תורה מפי. Si le rab ressemble à un ange d'Hachem, donc si, en fait, on voit très bien qu'il n'est que, quand il parle, il n'est que le représentant d'Hachem, il ne peut que, en quelque sorte, il s'écrase devant ce qu'il a à dire au nom d'Hachem, alors on viendra demander de la Torah, on viendra l'interroger et lui demander de la Torah. Vim là, et sinon, allez vachutor avec lui, vous ne pouvez même pas le demander, ce n'est pas la peine. C'est pas marqué si le rab sait bien parler. Mais c'est. Est-ce que les. En fait, ce qu'on veut dire par là, hein, si les domé le malachut, donc c'est ses midotes, c'est son caractère, c'est sa personnalité. Alors, ça, c'est ça qui va lui permettre d'avoir un impact. Et là-dedans, à ce moment-là, quand c'est nécessaire, il n'y a plus de problème de kavod. Et c'est ce que Hachem a dit à Abraham Avinu. En Eretz Kenaan, odia tiv acha. En Eretz Kenaan, je ferai connaître ta nature, donc tes qualités, et pas ton savoir-faire, ton savoir-parler, etc. Mais ce que. Et à ce moment-là, les gens vont t'écouter parce que tu vas pouvoir exprimer ce que tu es. Et pas les idées seulement, mais ce qui va passer, c'est ce que tu es réellement. Et Rachid dit en plus, sur Sheodia Tivacha Baolam, ça veut dire en fait que tes qualités, tes forces vont s'exprimer. Elles vont s'actualiser, ça va sortir de l'état de potentialité dans lequel elles sont là en Mésopotamie, là au Kazim, où tu as là ces qualités-là, mais il ne peut pas les exprimer, sinon il finit en prison. Ensuite c'est marqué Ve'esra le goy gadol va'avarecha va'agadla shmecha ve'ibracha. Je ferai de toi un grand peuple. Je te bénirai, je grandirai ton nom et tu seras une bracha, tu seras une bénédiction. Goy Gadol, un grand peuple. Ça veut dire combien de millions? Milliards. Ouais, c'est chinois. Dans la Torah, ça ne se mesure jamais en quantité. La Torah, elle ne compte que la qualité. Au point que quand la Torah raconte qu'Abraham Avinu a fait Mishté Gadol, il a fait un grand festin lorsqu'il a Veigamel, lorsqu'on a sevré son fils Yitzhak. Alors Rashi explique qu'est-ce que ça veut dire un grand festin. C'est un festin auquel participaient les grands de la génération. C'est pas du tout le nombre de convives, c'est quelle était la qualité des participants. Alors, maintenant, il y a quelque chose de très important, c'est ce Veillé Bracha. Tu seras une bénédiction. Mais il faut savoir que les Brachot, c'est pas quelque chose de simple. Pour nous, on pense que c'est des paroles. Quand on va demander une bracha à quelqu'un, il va répondre Tatlichou, la bonne santé, etc. Un jour, il y a un élève qui est venu demander une bracha à son rab. Qu'il avait réussi à se faire dispenser du service militaire. Et à ce moment-là, le rab avait son petit-fils sur ses genoux. Alors il a répondu à l'élève, il lui a dit, tu me demandes à moi une bracha. Demande à cet enfant une bracha. puisque lui n'a jamais goûté à la faute. Il est parfait. Si lui te donne une bracha, c'est une bracha, oui. Aucun. Il n'y a pas de scorie dans ce qu'il va dire. Lui peut te donner une bracha. Il y avait un. À l'inverse, il y avait un élève qui devait se présenter au séminaire et qui voulait se faire exempter. Et c'était à la fin de la vie du Ria, de Rav. Et il est venu demander une bracha. Et il a répondu, le Rav a répondu, je ne me sens pas très bien. Je ne peux pas. Je ne peux pas maintenant te donner une bracha. La question qui se pose, c'est que ça veut dire qu'il ne peut pas te donner une bracha parce qu'il ne se sent pas bien. Marqué que mon cher Abinou, il a donné une bracha au clan Israël, tout Israël. Il leur a donné la bracha Hashem Elokir Votechem, Hashem le Dieu de vos ancêtres, Yosef Alechem Kachem Elef Permi, qu'il ajoute, il vous ajoute mille fois ce que vous êtes déjà, Vivetrem Kacher Nibarachem, et qu'il vous bénisse comme il vous l'avait dit. Chazal explique, c'est le verset. Dans le Midrash, on explique un soir, Racham Roulo Israël. Les Bnei Israël lui ont dit, Rabbeinu Moshe, Moshe notre maître, Akadosh Baruch Hu lo natan kitzva levichotenu. Hashem n'a pas donné de limite au brachot qu'il nous a donné. Véata, Marta, élève permis. Et toi, tu as dit mille fois. C'est une limite. Pourquoi est-ce que tu nous as mis une limite? Marlène, Mache Berati, Etrem, Micheli Berati. La bracha que je vous ai donnée, je vous l'ai donnée venant de moi. Que j'ai à voir, pardon, je vais ouvrir Etrem, que la chère du Berachem. Est-ce que j'ai ajouté? Hachem, lui, il vous bénira comme il vous l'a dit. Lui, il peut bénir comme il vous l'a dit. Moi, je ne peux pas. Ça veut dire, c'est marqué dans Michelet, Tom Aïn, Hu Yevarech. Hu Yevarech. Celui qui est généreux, il sera béni. Celui qui a un œil positif. Celui qui est Tom Aïn, un bon œil, lui, il peut être celui par lequel la bracha, donc le flux des montées divines, va descendre dans le monde. Ça peut passer par n'importe qui. Mon cher Abinou, il a pensé que il s'est évalué lui-même en disant que moi, ma générosité, mon haïn tov, ça peut aller jusqu'à mille fois. Yoter mitach enenu yachol levarech. Plus que ça, je ne peux pas. Ça, c'est le sort de la voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas des brachot et voilà, je dis ceci, mais. Non. Il faut savoir qu'est-ce que tu es capable. Qu'est-ce qui peut passer par toi? On sait bien que c'est. Donc quelqu'un veut une bracha, c'est pas lui qui l'a. Il n'a pas les moyens de faire que l'autre soit en bonne santé, qu'il ait une longue vie, qu'il ait une parnassa, ça, il n'a pas les moyens. Ce qu'on fait, c'est, celui qui dit ça, il se dit, je vais me positionner de telle sorte que le flux des bontés d'Hachem, Hachem lui est toujours d'accord de le lever, seulement il faut qu'il y ait quelqu'un à la réception, mais moi je vais me mettre en position telle que l'autre puisse bien recevoir ce qu'il veut. Parce que s'il n'y a personne si les choses ne se présentent pas chez lui de la bonne façon, il ne pourra pas le recevoir. C'est pas ce qu'Hachem donne, c'est toujours en fonction du récepteur. C'est pas qu'Hachem sème à tout vent et puis tu prends ce que tu peux. Et le reste disparaît. Non. C'est comme s'il y avait un feedback. Ça veut dire, Hachem dit, voilà, je veux donner, qui est à la réception? Et qu'est-ce que vous avez comme kélim à la réception? Qu'est-ce qu'il y a comme récipient pour recevoir ce que je vais donner à la réception? Alors, si ça se trouve, la personne, elle n'a pas les récipients pour recevoir. Alors, il faudra peut-être qu'on trouve un tuyau qui permette de formater ce qu'il va recevoir de telle sorte qu'il puisse le recevoir. Donc, celui qui donne la bracha, il évalue dans quelle mesure est-ce que je peux être le tuyau, dans quelle mesure je suis capable de formater pour lui ce qu'il doit recevoir. Il n'est pas capable tout seul. Bon, moi je vais essayer de faire quelque chose. Parce que Moshe Rabbeinu a dit, voilà, moi je peux, Hachem il peut donner bien plus que 1000. Je suis capable de formater les choses de telle sorte que vous pouvez recevoir jusqu'à 1000. Pour le reste, bien sûr, Hachem vous donnera tout ce qu'il peut vous donner. La parole dit dans Bava Metzia, « Ena bracha metzuya elav davar samui minaï » La bracha n'est là que dans les choses qui sont cachées, qui ne sont pas vues. C'est-à-dire, tant que l'homme n'a pas compté, il n'a pas évalué combien de quintaux de blé ses champs ont produit, il peut prier pour qu'il y en ait plus. Pourquoi ? Parce qu'il donne un miracle de changer, lui il a 100 quintaux et il en voudrait bien 200, il demande à Hachem dans 200, mais tu en as 100 maintenant, c'est plutôt que je fasse un miracle que les 100 deviennent 200. Mais tant que ça n'a pas été compté, tant qu'on n'a pas associé à la voix en question, à la récolte en question, un chiffre bien précis, tu peux demander. Une fois qu'on l'aura compté, ça s'appelle filatchav. C'est une prière vaine. On n'a pas le droit de la faire. En fait, on pourrait se demander, mais qu'est-ce que ça change pour Hachem que M. Machin, il a compté, il a fait le décompte, il s'est aperçu qu'il avait 100 quintaux. Qu'est-ce que ça change pour Hachem? Hachem ne peut pas lui donner 200 parce que lui, il a compté 100. Alors, le Rav Wolber a expliqué qu'une bracha, comme je vous ai dit, c'est faire arriver à destination le flux des bontés d'Hachem. Avant que l'homme compte combien il y en avait, il ne sait pas combien il a de blé, et il pense encore que Hachem peut multiplier sans fin, Hachem peut tout, donc il peut, mon émouna est tel que Hachem peut tout, il peut faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de blé. Après qu'il ait compté, en quelque sorte, l'homme devient tsaraïn, ça veut dire, bon, maintenant c'est comme si il avait limité. C'est comme tsaraïn, ça veut dire l'œil est étroit. Ça ne rentre plus dans l'œil. 200, ça ne va plus entrer dans l'œil. Parce que maintenant, il a compté, et dans son œil est entré 100. Il ne va plus, c'est plus possible. Donc, il ne peut même plus se représenter plus que 100 quintaux. Il sait bien que le blé ne va pas se multiplier. Donc la tfila qu'il ferait à ce moment-là, elle est belle. Par rapport à ce qu'Hachem peut donner, le regard de celui qui a compté, c'est presque un Aïnara. C'est ce que dit Rambolpé dans un show. Bémet, en ce qui concerne le Birkat Amazon, la halakha, elle est qu'il faut qu'il y ait du pain sur la table quand on fait le Brit Hamazon. C'est-à-dire que sur une table, on a mangé, mais il se trouve qu'on n'y est pas. Alors, la halakha, c'est qu'il faut qu'il y ait du pain sur la table. Certains disent que c'est mieux de mettre un morceau de pain plutôt qu'un pain entier, mais bon, si on n'a pas autre chose qu'un pain entier, on peut mettre un pain entier aussi. Avant de faire le Brit Hamazon. Le Ramban dit pourquoi, il nous l'explique dans Parchat Truma, il dit parce que depuis la création, dit Ramban, plus rien n'est créé, yesh me'ad, à partir de rien. La création, au moment où Hachem a créé le monde, il l'a créé à partir de rien. Le Big Bang, si vous voulez, il s'est fait à partir de rien. Mais maintenant, Hachem ne crée plus, même si on dit qu'il répète la création, mais seulement la partie post-Yeshmer, après le Yeshmer. La chita du Ramban, c'est que Hakadosh Baruch Hu a créé d'abord, mais il n'a créé que ce qui était créé en tout début. Dans notre langage, on dirait Hakadosh Baruch Hu a créé d'abord toute l'énergie du monde. Puis après, il a dégradé cette énergie, enfin il a réparti cette énergie dans toutes sortes de situations. Donc Yesh Me'ain, à partir de rien, ça fait le Big Bang. C'est seulement une hypothèse de Big Bang, c'est personnellement, c'est sûr. Il y a même des gens très sérieux qui disent que ça ne l'est pas. Et à partir du Big Bang, vous avez un processus, on décrit un processus, que ce soit vrai ou pas, de passage de cette énergie à ce qu'on a aujourd'hui. Bon, avec refroidissement, avec sa création, tout ce que vous voulez, mais il ne sait plus Yesh Me'ayin. Yesh Me'ayin, c'était seulement l'énergie à partir de rien. Il a fabriqué de l'énergie. Il a mis de l'énergie dans le monde. Et le Ramban dit, il n'y a plus, ce passage-là, il n'existe plus. Donc, la bracha, c'est un processus du monde. Ce n'est pas un miracle. Le miracle, ce n'est pas de l'ordre de la bracha. La bracha, elle ne peut pas tomber sur quelque chose qui est vide. Le vide, ça représenterait, il n'y a rien et tu demandes quelque chose. Alors, bien entendu, ce n'est pas exactement comme ça que ça se présenterait, mais nous, on voit, il n'y a rien et je demande quelque chose. Donc pour moi, c'est comme si je demandais que de ce rien arrive quelque chose. Comme si c'est une création, yesh, mais rien. Quelque chose, ex nihilo. Ouais. Je préfère le latin ou l'hébreu. Donc il faut qu'il y ait quelque chose, même très très peu de choses. Parce que la bracha, c'est un facteur multiplicatif. Donc vous pouvez multiplier, bon, la multiplication, elle se fait à partir de. Enfin, c'est 3 fois rien, c'est quelque chose. Hein, tout le monde sait, oui. 3 fois rien, c'est quelque chose. Rien, c'est rien, mais 3 fois rien, c'est quelque chose, vous connaissez. Donc à partir de 3 fois rien, on peut multiplier et avoir quelque chose. Donc tu peux mettre quelques. Certains disent que même s'il y a des miettes qui restent, même s'il n'y a pas un chili, il n'y a pas un kézaïque, il n'y a pas un. Bon, ça, ça se discute déjà maintenant. Et même si on n'a que des miettes, disons en gros, bon, la bracha, elle va venir sur les miettes, et elle va amplifier tout ça, donc. C'est ce qu'on demande, n'est-ce pas? Dans le Brit Hamazon, on demande à Hachem de remplacer ce que j'ai consommé par beaucoup plus que ça. Ça veut dire qu'en fait, avec le Brit Hamazon, après que j'ai mangé, et que j'ai fait le Brit Hamazon, il y a plus de nourriture dans le monde qu'il n'y en avait avant que je ne mange. C'est pour ça que la Gemara dit dans la faute que celui qui ne fait pas la Gemara, le Brit Hamazon, il vole le clan Israël. Il vole Hachem et il vole le clan Israël. Pourquoi? Parce qu'il y avait une certaine allocation de nourriture, tu viens et tu prends. Après toi, il y en a moins. T'es un voleur parce que je t'ai donné les moyens de faire qu'il y en ait au moins autant qu'avant que tu prennes, donc finalement tu n'auras rien pris, et même tu peux faire en sorte qu'il y en ait encore plus. Donc si tu ne le fais pas, tu vas voir. de la Gemara dit dans mon compte. Et par conséquent, il faut qu'il y ait quelque chose à partir duquel la bracha puisse arriver en fait et faire multiplier tout ça. Donc, quand quelqu'un fait une bracha, il fait descendre la bracha, il fait une bénédiction, il donne une bénédiction, il fait descendre la bracha dans le monde. Donc, la bracha, c'est quelque chose d'assez énorme. C'est marqué dans la Gemara, dans Ta'anit, Cholion Vayor, Batkol Yotzet, chaque jour, il y a un bat-col qui sort, une bat-col qui sort, et qui dit Kol ha'olam kulo nizon bishvil chanina beni. Le monde entier est nourri bishvil chanina beni. On peut dire que shvil, c'est un sentier, un chemin. Par le chemin de chanina beni. Donc la bracha, elle circule à travers chanina, mon fils viagère. Mais chanina beni et chanina, mon fils, daïlo. Le Kav Chahouvin, Nerev Shabbat, Nerev Shabbat. Et lui, il se contente de manger certaines quantités de Chahouvier, de Chahou, Nerev Shabbat, Nerev Shabbat. Donc lui, il mange presque rien dans le monde. Tout le monde, en fait, est nourri grâce à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rav Yochanan m'explique. Rav Hanina, il ne vivait pas du tout pour lui. Il était entièrement Ein Tova, un œil positif en fait. Il ne pensait qu'aux autres. Donc il était vraiment le tuyau par lequel, le conduit par lequel, la bracha d'Hachem, le flux des bontés d'Hachem descend dans le monde. De même, Abraham Avinu. Lui aussi, il est le flux des bontés du type Chesed, gratuit. C'est pour ça que Chazal dit, c'est pour ça que Hachem lui a dit, Ata Tevarech, toi, tu vas bénir, et celui que tu auras béni sera béni. Et Hachem lui dit, jusque-là, c'était moi qui faisais la bracha. C'est moi qui décidais, je faisais tout le travail. C'est moi, je formatais les choses pour que les gens puissent les recevoir. Désormais, Ata Tevarech est Hachem Tarkots. Hachem dit cette chose énorme à Abraham, il lui dit, désormais c'est toi. C'est toi qui vas bénir qui tu veux. Donc c'est toi qui le conduis à travers lequel la bénédiction d'Hachem va descendre dans le monde. On voit en particulier ici, en ce qui concerne tout ce qui descend du ciel, tout ce qui vient comme shefa, comme flux des bontés d'Hachem, dépend de l'homme. C'est ça l'homme. C'est pour ça qu'on est vertical. On a la tête dans le ciel, mais on est le conduit. On est naturellement le conduit. L'homme peut être tellement bon, il peut se bonifier, il peut s'améliorer, qu'il devienne Tom Haïn, qui devient quelqu'un de complètement... il s'efface complètement dans son rôle de Tsinor, de conduit par lequel la bracha peut descendre dans le monde. Là, il n'est que ça. En quelque sorte, c'est quelqu'un qui ne pense pas du tout à lui, il pense uniquement aux autres, au monde. Vous connaissez le reste de la bracha qui dit que veillez bracha veillezcha le goy gadol, je ferai de toi un grand peuple. Alors Rashi rapporte, nous n'avons entendu pratiquement que des Rashi. Zeh sheomrim elokei Avraham, le fait qu'on dise Elohim Abraham, Dieu d'Abraham, c'est la traduction de la promesse qu'Hachem a faite à Abraham, « Ve'esra de Goy Gadol. » Je ferai de toi un grand peuple. « Ve'avaretra, et je te bénirai, Zeshomrim Elohim Yitzhak, ton fils. Ve'avadlashmecha, et je grandirai ton nom, Zeshomrim Elohim Yitzhak. » Donc ici, la promesse qui a été faite à Abraham, c'est qu'on dira, on pourra dire Elohim Abraham, Elohim Yitzhak, Elohim Yaakov. Yahol, Yu Chotmim Bekulan. Est-ce que ça veut dire que quand dans la bracha, Baruch Ata Hashem, on va dire Maged Abraham, Bachan Yitzhak, ok, ou je sais pas, quelque chose de Yaakov? Non. Kachotmin, l'obel. Dans la Fatima, dans la bracha, on dit seulement Magen Avraham, mon seul Kavan. Au début de la bracha, on dit, non, on fait Eloke Avoteinu, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov, Akel, Agadol, Agibor, Anoa, etc. Baruch Ata Hashem, Magen Avraham seulement. On sait, Mara dit, il n'y a que trois personnes qui sont appelés Avot. Et il n'y en a que trois sur lesquels Akadosh Baruch Hu a accepté de dire Eloke quelqu'un. Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Il n'y a pas de Eloke David, il n'y a pas d'Eloke Moshe, il n'y a pas d'Eloke Aaron, il n'y a pas d'Eloke Boutouz, non. Seulement Abraham, Yitzhak, Yaakov. Alors, ce qu'on dit, c'est que Hachem dit Elohim Abraham. Ça veut dire qu'Hachem accepte de singulariser son nom sur le personnage d'Abraham. Même chose pour Yitzhak et Yaakov. De Moshe Rabbeinu, on dit Eved Hachem. Mais Hachem n'a pas dit Elohim Moshe. Il est Isha Elohim. Elohim Moshe. Sur le clan Israël, tout le clan Israël. On se marquait Eloke Israël. Et on veut dire, ce n'est pas le nom de Jacob, il y a Eloke Israël, mais il y a Eloke Israël, ça c'est tout le clan Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on voit que Hachem accepte d'accoler son nom à un peuple tout entier. Eloke Israël. Parce qu'il faut que le récepteur du nom unique d'Hachem, il faut qu'il soit très très grand. Donc, si on a tout un peuple, ça va. Bon. Mais la Shrina, comme on dit, il n'y a pas de Shrina sur moins que 22 000 personnes. Shina, bon, alors, on dirait le Kéabot qui dit quand on étudie, etc., mais sur 22 000 personnes seulement. Chazal dit sur Shuva Hashem Rivot Afri Israël, on apprend de ce verset, Rivot c'est 2 milliards, ça fait 20 000, et Alphé c'est 2 000, donc 22 000. Il faut qu'il y ait au moins 22 000 personnes. C'est le minimum nécessaire pour qu'il y ait ce qu'on appelle Ashrat Hashrina. Là, Israël ne peut pas descendre en dessous. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a avec les Avot? Ce qu'on veut dire ici, c'est que chacun des Avot avait une dimension de peuple. Abraham, c'est bien sûr, c'est un personnage, mais il a la dimension d'un peuple. Yitzhak aussi, Yaakov aussi. Ça veut dire qu'ils ont porté la présence divine dans le monde. Concrètement, ils l'ont porté. Alors, ce moment-là, il n'y avait que pour la porter. Et ils l'ont portée. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait était lié à la Shrina, à la présence divine dans le monde. C'est ce qu'on dit quand on dit que à Avot enen aretaba, que les Avot sont le chariot divin, c'est-à-dire qu'ils sont le support de la divinité dans le monde. C'est pour ça que Khazal explique, mais est-ce le Goy Gadol? Le Goy Gadol, je ferai de toi un grand peuple. C'est-à-dire qu'il a un digne de grand peuple. Abraham a lui tout seul. Et c'est en tant que grand peuple qu'il peut être, que Hachem accepte de dire Elokei Abraham. Parce qu'en fait, il met son nom sur un peuple. Le peuple Abraham. Abraham Avinu, c'est un peuple. Vabarecha, ce goy gadol, je vais le bénir. Donc il va se multiplier encore plus. C'est-à-dire, ça va même donner une dimension de peuple à son fils Israël. Lui aussi, il va avoir un statut de grand peuple. Vagadlash Necha sur Yaakov Avinu. Lui aussi, on va dire à l'Ogé Yaakov, c'est l'extension de Damar. Et en plus, après, on dit Veye Bracha, et tu seras une Bracha. Ça, a priori, ça vient dire que. On va dire Magen Avraham, on va t'acheter Magen Avraham. Pourquoi est-ce que on n'a pas mentionné Yitzhak et Yaakov dans la Fatima, dans le Baruch Ata Hashem à la fin? Parce que c'est Avraham qui a commencé. Ce qu'ils ont, eux, c'est quelque chose qui leur vient d'Avraham. Bien entendu, ils ne sont pas seulement les fils et le petit-fils d'Avraham. Sinon, ils ne seraient pas des patriarches. Ils ont inventé, chacun d'entre eux a inventé quelque chose. Mais cette notion de peuple, c'est l'homme-peuple, on dit, il y a des peuples-monde et il y a des hommes. Ici, c'est un homme-peuple. Abraham, c'est un homme-peuple, et il a fait en sorte que Yitzhak et Yaakov deviennent aussi des hommes-peuples. Donc, la première bracha de la. Je m'en laisserai de la Amida. C'est une bracha qui s'occupe de quoi? Elle s'occupe de la Merkaba. Elle s'occupe du support de la présence de la Shekhinah dans le monde. Je parle de l'Oké Abraham, de l'Oké Yitzhak, de l'Oké Yaakov, qui ont porté la Shekhinah, la Genava. Les Avot sont donc les seuls auxquels Akadosh Baruch Hu a accepté d'accoler son nom. Ils ont un digne, je vous dis, ils ont un digne de goy, de peuple. On dit Titen Emet le Yaakov et Chesed l'Avraham. Tu donnes le Emet à Yaakov et le Chesed à Avraham. Nous, on sait, ça fait partie du folklore. Qu'Abraham, il est parfait, peut-être même plus que parfait, dans la Mida de Chesed. Sa perfection, elle est du type Chesed. C'est-à-dire qu'en fait, le Chesed d'Abraham, c'est le Chesed que ferait tout un peuple qui s'investirait dans Chesed. C'est ça la dimension de Chesed d'Abraham. Donc il est le porteur de la dimension chesed d'Hachem dans le monde. Et quand on le remercie par exemple en Midrash, on dit les gens le remercient pour le chesed qu'il a fait à leur égard, il dit mais c'est pas moi. Moi je suis le porteur du chesed. précepte que vous recevez, il y a la chaîne. Même chose pour Yitzhak. Lui, il s'est perfectionné dans la mida de Parat, de la Goura, de la Yira, la puissance, la force. C'était sa Yira, sa force, c'est la force de tout un peuple qui se consacrerait à la Yira. Qui, toute leur vie, serait plein de Yirat Hashem. Donc, lui, il est le porteur de la présence divine, de la Yira, de la Goura Hashem dans le monde. Même chose pour Yaakov Avinu en ce qui concerne le Emet. Donc, chacun d'entre eux était en réalité un peuple par rapport à Abraham, par rapport au Chesed, Yitzhak par rapport à la Goura et Yaakov par rapport à Emet. Veillez bracha. Sois une bracha. Ça veut dire, Abraham Avinu lui-même, il sera une bracha. Tu seras une bracha. C'est pas tu seras porteur de bracha. Tu seras toi-même la bracha. Dans le Midrash, c'est marqué que la bracha d'Abraham Avinu, elle vient avant la bracha d'Akadosh Baruch Hu. La preuve, Bechemetim, c'est la deuxième bracha. Baruch Atah Hashem Bechayametim, c'est la deuxième bracha. Qui est Bechayametim? C'est Hashem. Mais Magen Abraham, dans le Midrash, il dit Veillez bracha, tu es la bracha. Abraham avant, à faire le jour. On voit en tout cas dans Chazal qu'il considère que cette bracha, c'est la bracha d'Abraham Avinu. On n'aurait pas osé dire autre chose comme ça. On aurait dit, nous, c'est la bracha d'Hachem qui a mis Abraham Avinu en posture de, etc. Mais Chazal vient et dit, la bracha d'Abraham, elle précède la bracha d'Hachem. Veillez bracha. Il y a un énorme klal, une règle générale en ce qui concerne la tfila, la prière. C'est que si on n'avait pas eu les Avot, on n'aurait rien su du Créateur. Qui nous a donné des informations sur Hachem? On n'aurait pas su ce que c'est qu'Elohim. Qu'Abraham, sur Abraham, on a une idée de ce qu'est Abraham. On décrit certaines choses d'Abraham, ou d'Israël parmi nous. Pourquoi la Torah nous raconte la Akeda? Finalement, pourquoi on nous dit la Akeda? C'est un problème qui concernait Abraham et Yitzhak. Les autres épreuves d'Abraham ne sont pas mentionnées dans la Torah. Dans la Torah, il est marqué qu'il y a ni moins d'ajouter Abraham dans la fournaise. Il y avait la Akeda, c'est le dixième mystère. Où sont les neuf autres? Ils ne sont pas marqués explicitement dans la Torah. Pourquoi on a marqué celle-là? Et d'autres parchiotes sur Yitzhak Avinu aussi. Ou même Elokei Yaakov. Ça veut dire que quand on prie, où est-ce qu'il faut qu'ils mettent l'accent dans la prière? Et dans Elokei Abraham, l'accent n'est pas sur Elohim, l'accent est sur Abraham. Parce que sur le cœur, je ne sais rien dire, toi. Parce que je ne sais rien dire. Sur Abraham, j'ai un peu une idée. Un peu. Parce que la Torah a voulu me dire, m'en dire. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu veux savoir ce qu'Hachem veut de l'homme, c'est pas en réfléchissant sur ce que est Hachem, ce que tu veux savoir sur Hachem. Ce qu'on te dit, c'est, tu veux savoir ce qu'Hachem veut de l'homme, regarde Abraham, regarde Yitzhak, regarde Yaakov. C'est ça qui te donnera une idée de ce que Hachem veut de l'homme. Hachem se dévoile en quelque sorte, il se donne à connaître uniquement de cette manière-là. Puisque sur Elohim, on ne peut rien dire. Sur Hachem, on n'a rien de droit de dire. Donc j'en sais rien. Je veux que des choses fausses. Des choses qui viennent d'ailleurs, etc. qui sont fausses. Mais sur Abraham, je sais. Après, c'est Yira, Emet. Cette générosité, cette crainte d'Hachem, c'est toute la vérité. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est ce que l'homme doit faire, c'est ce qu'Hachem veut que l'homme fasse. Les Chazal disent, on a une obligation tous les jours, mais je ne suis pas sûr que ce soit tous les jours, mais on a une obligation de dire, Matai Yagi ou Maasai, le Maasai Arotai Avraham Yitzhak Yaakov. Quand est-ce que mes actions arriveront à la hauteur des actions d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Qu'est-ce que ça veut dire? Je me prends pour Abraham, pour Yitzhak et Yaakov. Est-ce que je dois me demander? Je veux faire ce qu'Hachem me demande de faire. Donc il faut que mes actions soient comme ce que je sais. Les actions voulues par Hachem, l'action humaine voulue par Hachem. Donc c'est celle d'Abraham Yitzhak Yaakov. Il faut travailler Reb, il faut travailler l'Ira et il faut travailler Emet. C'est tout ce que je sais. Et donc c'est ça que je dois viser. Ah, c'est très haut? Ok, c'est très haut. De toute manière, on te dit que tu dois ressembler à Hachem. Et que Shimon ben Shetach, un Tana, il a acheté un âne à un arabe. Quand il a ramené le, vous le savez pendant l'histoire, il a ramené l'âne à la maison. Il s'est aperçu que dans le collier de, dans la longe de l'âne, il y avait un diamant. Excusez-moi, c'est une perle. C'est pas un diamant, c'est une perle. Une perle. Alors il dit, Rémi, super, Hachem t'a envoyé une bracha. Acheter un âne, reçu un âne plus une perle. Ils ont tout de suite trouvé des tsukim pour ça, c'est marqué, Birkat Hachem ita Ashir, la bracha d'Hachem elle te rend riche. Donc je suis même qui m'a dit, moi j'ai acheté un âne. Je n'ai pas acheté une perle. Il allait chez le rab, il lui a rendu la perle. Alors le rab a dit, Baruch Hashem, Elokei Shimon ben Shetach. Baruch Hashem, le Dieu de Shimon ben Shetach. Ça veut. Qu'est-ce qu'il savait, lui, cet arabe du Dieu de Shimon Shetach? Il dit Baruch Hashem, le Dieu de Shimon Shetach. Il n'a pas la moindre idée qui était le Dieu de Shimon ben Shetach. Il ne savait rien. Le créateur, il ne savait rien, pas plus que nous d'ailleurs. Maintenant, il vient connaître Shimon ben Tshetach. Jusque-là, c'était l'acheteur de son âme. Maintenant, il voit que ce bonhomme, c'est un géant. Il sait que Shimon ben Tshetach est un Oved Hashem. De là, il a compris qui doit être le Boré Olam que Shimon ben Tshetach sert de la sorte. Si un adepte de ce Dieu-là est capable de se conduire de cette manière-là, alors on peut essayer de s'imaginer ce qu'est le Dieu de ce bonhomme. C'est là-dessus qu'il a dit Baruch Hashem Elokei Shimon ben Tshetach. C'est comme ça, les Avot. Grâce à eux, nous savons quelque chose de la chaîne. Mais c'est tout ce que nous savons. Vous savez bien que il y a une condition pour que la chaîne accepte d'appeler son nom, associer son nom à quelqu'un. En fait, il ne le fait que quand quelqu'un est mort. Sur du vivant, sur quelqu'un de vivant, il ne le fait pas, parce qu'aucun vivant n'est sûr. On ne sait pas ce qu'il va donner. Il l'a fait sur Yitzhak Avinu, mais Yitzhak Avinu est considéré comme mort. Et parce que certains disent que peut-être il est mort sur la Pieda, qu'il a reçu une deuxième neshama. Quelque part, le Yitzhak qui est né comme fils d'Abraham, il en est à sa deuxième vie, en fait. Parce que Allah, il est mort. Aussi, même s'il est mort, il a vécu une expérience qui est tellement énorme que, bon, lui, il est définitivement... De lui, on est sûr. C'est lui qui ne va pas bouger, il ne va pas mal tourner. Mais, d'Abraham et de Jacob, quand ils sont vivants, on ne sait pas. Mal tourné. Donc Hachem n'est pas mis à Khem Shmo, on ne dit pas Eloke Abraham ou Eloke Yaakov avant qu'ils aient terminé leur vie. Mais il y a une condition. Parce que vous connaissez l'histoire, c'est David Amelech, le roi David a demandé à Hachem. Il a dit Moi je suis le Mashiach. Oui, David c'est le Mashiach. Il a dit pourquoi on ne dirait pas Eloke David? On pourrait aussi connaître Hachem à travers David, le Mashiach. Alors, il a dit non. David ne s'est pas laissé démonter, il a demandé pourquoi. Hachem a dit, eux, je les ai éprouvés. Donc, il y a une condition sine qua non pour être, pour que Hachem accole son nom à quelqu'un. C'est qu'ils aient passé les épreuves avec succès. Vous me direz, où sont les épreuves comme telles? Elles ne sont pas dites les épreuves d'Israël et les épreuves d'Jacob. Quand on voit une ville en vie, on voit très bien qu'ils ont été, dans des situations très difficiles. Mais est-ce que c'était ça leurs épreuves? C'est pas présenté comme une épreuve. C'est sûr qu'il y avait des épreuves. Mais comme ça ne nous apporte rien de savoir quelle épreuve, ça pas plus que de savoir que la Torah n'a pas jugé nécessaire de nous dire quelles étaient les épreuves d'Abraham Avinu. Bon, on a une Torah chez Balpé qui nous le dit. Alors, dans la Torah chez Balpé, on saura quelques-unes des épreuves de Yitzhak ou de Yaakov. Mais ce qu'on sait de ce Chazal-là, c'est qu'eux ont passé les épreuves. Alors lui a dit, ben éprouve-moi. Vous savez bien que Hachem lui a dit, tu verras, je vais t'éprouver avec quelque chose. Les enfants du Talmud Torah de Trifouille et les papas te connaissent, et tu vas te casser la figure. Parce qu'on ne peut pas demander une épreuve. On demande l'épreuve, on a déjà perdu. C'est une erreur de la vie. Hachem l'a éprouvé avec l'histoire de Bathsheba. Alors, en vérité, il ne s'est rien passé, mais lui, il a fait tout le travail intérieur, il a considéré toute sa vie qu'il avait fauté. C'est pour ça que c'était à blanc. Parce que c'est justement pour lui montrer qu'on ne peut pas demander une épreuve. marqué dans Rashi, « Venivre fou vefa, elles seront bénies par toi, les familles de la terre. » Rashi explique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Adam Omer Wimno, t'es qu'Abraham. Un père dit, un homme dit à son fils, sois comme Abraham, prends Abraham comme modèle. Même chose dans ce verset où on dit que Yisimcha Elohim qui Ephraim qui Menaché, c'est-à-dire on donne une bracha à un enfant, que tu sois comme, prends Ephraim et Menaché, les fils de Yosef, comme modèle. Qu'est-ce que c'est que ce truc de dire à un enfant, sois comme un bras? Quand on ne lui dit pas simplement soit un tzaddik, soit un bon juif, soit un homme droit, quoi, voilà. Lorsqu'on lit les sfarim sur les grands, sfarim comme Aliyat Eliyahu, bien plutôt comme Cholach, on a envie d'être aussi grand qu'eux. Quelque part, il y a une envie de aussi être comme ça. Mais quand une mère dit à son enfant, sois un bon garçon, un bon enfant, l'enfant, il doit être un grand philosophe pour savoir ce que ça veut dire être un bon enfant. Et il y a des tonnes. Savoir ce que c'est que le bien. Donc il faut que son enfant soit un philosophe. Pour savoir ce qu'elle dit, ma mère, d'être un bon enfant, être bon. Ce que veut dire bon. Il y a quelque chose de clair devant les yeux, alors on sait ce qu'on veut de lui. Stam, soit sadique, soit un bon juif, soit yachar, ça ne met pas le feu, ça ne donne pas d'énergie. Ça ne donne pas de force. Pourquoi est-ce qu'on fait aujourd'hui la bracha aux enfants? On fait ici le Elohim qui est Ephraim et Menaché, qu'Elohim te fasse comme Ephraim et Menaché. On donne Ephraim et Menaché en modèle. Eux, ils sont devenus grands, bien qu'élevés en Égypte, à la cour de pourri de Pharaon. Néanmoins, ils connaissaient toute la Torah. Là, on entend quelque chose quand même. Bon, c'est dans un milieu hostile. C'est obligé de côtoyer tous les jours. Vous imaginez ce que ça va être à cause de Pharaon. Et malgré tout, tu étudies et tu te comportes convenablement selon la Torah. Ça, c'est un modèle qu'on peut entendre. C'est pour ça que Chazal disent le dollar shimush tamir et hafamim yoter milimuda. C'est-à-dire de servir, d'être dans la proximité des grands. C'est plus grand que l'étude. De les voir vivre, de les voir mettre en pratique la Torah, c'est beaucoup plus que ce qu'on peut obtenir par l'étude. Parce qu'on pourrait se dire, mais quand j'aurai, voilà, dans Shulchan Aruch ou dans les Sfarim, c'est marqué, qu'est-ce que c'est être Tov? J'ai tout étudié, je sais. Je sais ce que c'est qu'être Tov. Donc qu'est-ce qu'on veut de moi encore plus? Pourquoi il faudrait que je sois dans le voisinage, dans la proximité de quelqu'un de grand, pour voir comment il vit, etc. Et quand est-ce qu'on arrive à un dévoilement de Torah Temet? Uniquement quand on sait comment la Torah est vécue. Il ne s'agit pas simplement de savoir ce que la Torah me demande. Et comment elle est vécue. Quand on est près d'un maître femme, on voit comment lui se conduit. On apprend de tous les gestes, sa façon de faire les choses. Le Rambam dit qu'un Talmid Chacham, il est reconnaissable en cela qu'il ne fait pas les choses comme tout le monde. C'est pas seulement qu'il sait beaucoup de choses, qu'il connaît la Halakha, qu'il connaît la Torah, etc. Les choses, il ne mange pas comme tout le monde, il ne boit pas comme tout le monde, il fait les choses différemment. Point que le Midrash dit, le Midrash halakhique, en fait, dit que celui qui a étudié la Mishnah et qui n'a pas pratiqué, en fait, il n'a pas vu, c'est la Gemara en réalité, mais il n'a pas vu comment on se conduit, et il est encore, d'une certaine manière, il est encore dehors, il est encore à l'extérieur, il n'a encore rien compris. De Haran, je vous mets, Haran il est venu de Okazdim avec son père et ils se sont arrêtés quelque part en Syrie, là, je crois que c'est bon, un endroit qui s'appelle Haran, où ils se sont installés, ils sont restés et Terah y est mort. Et Haran a quitté ce Haran avec les gens, avec toute sa famille et avec un nefesh asher asu de Haran. À Haran, Abraham a enseigné et il a converti toutes sortes de gens, Sarah a converti des femmes, etc. Ils ont pris tous ces gens-là et ils les ont amenés en direction, ils ont pris avec eux en direction de Canaan, en direction de Eretz Israël. Alors sur Asher Asou de Haran, les gens qu'ils ont faits à Haran, Rachidi, Rachid dit deux choses. Il dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont fabriqués, ils ont pris la terre glaise, ils les ont insufflé la neshama. C'est leurs enfants. C'est ceux chez Yvnissam Tarakot Tashkina. C'est-à-dire, c'est ceux qu'ils ont ramenés. Littéralement, s'ils ont mis sous les ailes de la Shkina, ça veut dire ils ont ils les ont convertis dans notre langage à nous. Et deux, et Rachidi et le Pshat, c'est ils ont pris leurs esclaves. Donc Rachidi d'abord le Midrash et après le Pshat. D'habitude, Rachid dit le pshat, le sens obvi du texte, et après, pour éclairer, etc., il ajoute le midrash. Mais là, il dit le midrash d'abord et le pshat après. Ça veut dire, dit le Ravolvé, chez Adrash, tamun bapshat. C'est-à-dire, le fait que Rachid ait dit chez Yerfissam, tahatat bashkina, ça c'est le drash, c'est pas le pshat, c'est pas le sens oblique du texte, mais c'est la raison du pshat. Pourquoi est-ce qu'ils ont acquis des esclaves? Pour les convertir. Le Rashi pense que si tu comprends pas que leur intérêt c'était de convertir les gens, tu vas t'imaginer qu'ils étaient des grands propriétaires et qu'ils se baladent avec des nuées d'esclaves. Non, c'est pas ça. En plus, la Torah ne nous dirait pas ça. On s'en fiche. C'est pas important. On ne va pas nous dire qu'à quelques endroits, c'est marqué qu'Abraham était riche, qu'il avait beaucoup de monde, etc. C'est tout. Mais on ne va pas nous dire qu'on n'a pas dit qu'il a pris avec lui tous les objets importants, ni ses troupeaux, ni ses bergers, s'il avait des bergers, etc. On n'en parle pas. Donc Rashi pense que si tu veux comprendre cette histoire, le pshat qui est qu'ils ont pris leurs esclaves, mais la halakha est qu'un esclave, on est obligé halakhiquement de le convertir. Et s'il ne veut pas se laisser convertir et qu'on n'arrive pas à le convertir, on est obligé de le revendre. Parce qu'on ne peut pas prendre un esclave. Si tu prends un esclave, si tu le prends en charge, il va travailler pour toi jour et nuit, et faire tout, mais bon, tu le prends en charge, tu ne peux pas le prendre seulement matériellement en charge. Tu es obligé de le prendre spirituellement aussi en charge. Donc tu dois le convertir. Tu ne peux pas le convertir, donc tu ne peux pas le laisser un idolâtre dans ta maison, continuer, tu le prends en charge et tu soutiens sa démarche idolâtre. Non, là, tu ne peux pas. Donc quand ils ont pris les esclaves, c'était pour les convertir. Donc quand on reste au drache, pour qu'on comprenne le pourquoi ils l'ont fait, d'une part. L'intention d'Abraham, c'est très certainement donc de les convertir. Le Rav en passant, il dit qu'en vérité, extérieurement, on avait l'impression qu'Abraham avait des esclaves. Point barre. Extérieurement, il allait avec des gens qui étaient ses esclaves. Mais le but de l'exercice, n'était pas d'avoir des esclaves, c'était d'avoir des gens qu'on a réussi à convertir. Alors, il dit que chez les grands, en clan d'Israël, tout était comme ça. Il faut qu'il reste la page toute, le côté simple des choses. On peut être très grand, mais vis-à-vis de l'extérieur, il faut se conduire normalement. C'est pas nécessaire. On ne veut pas ostensiblement afficher, voilà, je suis grand, alors je conduis de telle ou telle manière. Il y a une conduite modeste. Bon, alors, dans le pasouk, c'est marqué Vayavor Abraham ver Baaretz ad mekom Shechem. Abraham a pénétré en Eretz Israël, il est entré jusqu'à Shechem. Shechem, c'est la pelouse. Aujourd'hui. Alors, il s'agit de la ville de Shechem. Et le Ramban rapporte Rashi a dit Nirnas le Tocha ad mekom Shechem leitpalel al bnei Yaakov. Qu'est-ce qui se passe? Abraham est allé jusque à l'intérieur de Shechem. Shechem, c'est quoi? Shechem, c'est la ville de Shechem. Et Shechem, c'est lié à l'histoire de Dina. Ils ont rapté Dina, donné Dina, et qu'ensuite, Shimon et Lévi ont massacré toute la ville de Shechem. Alors, le Rashi dit, Abraham est entré dans la ville en tant que Maaseh Avot Siman Labanim. Les actes des patriarches sont faits de telle sorte qu'une partie du chemin qui va devoir être fait par les descendants est déjà fait. De quelque sorte, ils ont pavé le chemin pour leurs descendants. Ici, il savait que les Bnei Yaakov, quand ils vont apprendre ce qui est arrivé à Dina, ils vont être tristes, etc. Avraham Avinu a fait pour eux pour qu'ils soient pas, qu'ils aient suffisamment de ressort pour réagir. Parce que sinon, ils auraient été complètement atterrés, ils auraient été perdus. Il fallait prier pour qu'ils ne soient pas envahis de tristesse, pour pouvoir réagir. Et il explique que c'est aussi la raison pour laquelle, donc cette histoire de faire les choses de telle sorte qu'elles soient déjà faites pour la suite, partiellement en tout cas, c'est ce que nous faisons à Rosh Hashanah quand on dit Simana Milta, on fait les simanim à Rosh Hashanah. C'est, puisque Rosh Hashanah c'est la racine de toute l'année. Donc le siman qui est fait à Rosh Hashanah, le signe qui est fait à Rosh Hashanah, il est racine pour tout ce qui va se dérouler par la suite. Donc là, Israël, et d'une certaine manière, sa racine c'est les Avot. Et par la suite, c'est, on est en train simplement d'actualiser toutes les potentialités que les Avot avaient. C'est comme ça, le clan Israël, c'est ça. Le clan Israël initial, c'est les Avot, mais il y a toutes sortes de choses qui sont restées au stade de potentialité, parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux, parce que, etc. Donc le clan Israël, dans toute la vie du clan Israël, ça va être d'actualiser, de déployer complètement toutes les potentialités des Avot. De même que toute l'année, on déploie les simanim, les signes qu'on a mis en marche à Rosh Hashanah. C'est pour ça, parce que sinon, qu'est-ce qu'on joue? Simanim, c'est ça qu'on joue.